BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business, Sandra Gandoin.
Il est presque 7h, bonjour à tous, bienvenue dans la matinale de l'économie. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. La croissance chinoise s'essouffle, plus 4,3% sur un an pour le deuxième trimestre, malgré des exportations solides et une accélération de la production industrielle. On va détailler cela dans un instant avec Nicolas Pagnaise et on parlera avec lui aussi des nombreuses publications du jour. ASML, Richemont et les banques américaines tout à l'heure. Et puis Bercy s'apprête à dévoiler le taux de rémunération du livret A qui s'appliquera à partir du 1er août. Il va être revu à la hausse. Une première depuis début 2023. Bonne nouvelle pour les épargnants. Un surcoût pour les banques et les bailleurs sociaux. On verra ça avec Caroline Morisseau tout à l'heure. Les autres titres ce matin, Léo Dumas.
3,5% d'inflation en juin aux États-Unis. Ça ralentit, mais il n'y aura pas de tolérance, dit le président de la Fed, qu'on entendra dans ce journal. 50% des droits de douane illégalement perçus ont été remboursés. On verra ce que font les entreprises de cet argent. Et puis la sortie de l'Odyssée par Christopher Nolan ce matin, le premier film tourné intégralement en IMAX.
Dans la prochaine heure, cette question, la défaite des Bleus a-t-elle des conséquences sur la santé économique de notre pays? Ils se sont inclinés hier soir en demi-finale du Mondial face à l'Espagne. Cela divise déjà Emmanuel Le Chypre et Raphaël Legendre qu'on retrouvera à 7h10. Et puis Euronext mise sur les petites et moyennes entreprises, simplification, rôle croissant des investisseurs particuliers, c'est ce que propose IPO Go. On parlera de cela et de bien d'autres choses avec Stéphane Boujna, président du directoire d'Euronext. Il sera avec nous à 7h45 dans le grand entretien, la matinale de l'économie. C'est parti, soyez les bienvenus.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'actualité économique.
Good morning business, le journal.
Et on commence donc par cette déception à Pékin, Léo.
La croissance chinoise s'essouffle et c'est assez net. Au deuxième trimestre, le PIB n'a progressé que de 4,3% sur un an, Nicolas Pagnaise.
Oui, cette croissance chinoise a ralenti plus que prévu sur le deuxième trimestre, au point d'afficher son rythme le plus faible depuis 3 ans. Alors qu'elle était de 5% sur le premier trimestre de l'année, celle-ci est descendue à 4,3% donc pour le second trimestre, sortant même de la fourchette officielle fixée par le gouvernement chinois pour 2026, à savoir entre 4,5% et 5%. La Chine, dont la croissance dépend fortement des exportations, qui fait face aux difficultés de passage via le détroit d'Ormuz, mais aussi à une faible consommation intérieure. Notons tout de même que l'envolée des prix des composants IA a tout de même permis aux exportations chinoises de bondir de 27% en valeur sur la période. Au-delà des exportations, d'autres indicateurs économiques en provenance de Chine montrent tout de même un certain dynamisme de l'activité chinoise sur la période. La production industrielle a progressé de 5,3% sur un an en juin. Au-delà des attentes des analystes, les ventes de détail ont rebondi sur un mois après un recul en mai, laissant entendre que la demande des ménages pourrait monter. On voit que cette annonce sur la croissance chinoise n'a pas fait réagir les marchés à ce stade qui évolue en Chine proche de l'équilibre à l'heure actuelle.
Merci Nicolas Pagnaise. Et l'autre donnée importante qui est tombée ces dernières heures, c'est l'inflation américaine. Elle s'est un peu calmée le mois dernier selon l'indice CPI, 3,5% sur un an après 4,2% en mai, mais avec le regain de tension au Moyen-Orient et donc sur le marché pétrolier, rien n'est acquis. D'où la détermination hier de Kevin Warsh, le président de la Fed, devant la Chambre des représentants.
Now at the Fed, our number one objective is getting monetary policy right.
Aujourd'hui à la Fed, notre objectif numéro un est de bien calibrer la politique monétaire. C'est notre but clair et constant, l'étoile qui nous guide. Et si nous menons la politique adéquate, et nous le ferons, la flambée d'inflation des 5 dernières années appartiendra au passé. La Fed n'a pas de tolérance à l'égard de l'inflation durablement élevée. Nous sommes résolument déterminés à rétablir la stabilité des prix.
To ensure price stability. Dans le même temps, c'est le déficit américain qui se creuse à nouveau sur fond de hausse des dépenses militaires et avec le remboursement des droits de douane illégaux qui s'accélère, le gouvernement fédéral décaisse des milliards et des milliards, Astrid Olivier.
80 milliards de dollars de droits de douane illégaux ont déjà été remboursés à date. C'est la moitié de ce qu'avait perçu le Trésor américain. Il y a près de 330 000 importateurs éligibles à ce remboursement, selon l'administration américaine. Ce sont les demandes dont le paiement était encore en cours au moment de la décision de la Cour suprême qui ont été remboursées en premier, tout simplement parce que les dossiers étaient encore ouverts sur les logiciels des services douaniers. Parmi les premiers à avoir été remboursés, il y a par exemple Walmart, qui devrait obtenir 2,5 milliards de dollars de dédommagement. Avec cette somme, le géant de la grande distribution promet une baisse globale de ses prix. D'autres comme les transporteurs FedEx, UPS et DHL vont rembourser directement les consommateurs qui avaient payé la surtaxe sur les commandes. D'autres encore envisagent de provisionner la somme au cas où Donald Trump déciderait d'infliger de nouveaux droits de douane, autour de 10% après le 24 juillet. Car à l'issue d'une enquête, la Maison Blanche a jugé une soixantaine de pays trop laxistes dans la lutte contre le travail forcé.
Et sous cette menace douanière américaine, ce sont les négociations entre le Canada et le Mercosur qui s'intensifient. Ottawa et le bloc sud-américain disent vouloir conclure un nouveau traité commercial avant la fin de cette année. Le Canada qui accélère de toutes parts avec l'objectif de doubler ses accords commerciaux au cours des prochaines décennies. C'est ce qu'a dit sa chef de la diplomatie cette nuit.
En France, décision imminente sur le livret A, Léo.
Oui, Bercy dévoilera ce matin le taux de rémunération qui s'appliquera dès le 1er août et ce sera la première révision à la hausse depuis 2023. Bonne nouvelle donc pour les épargnants, mais un surcoût pour les banques et pour les bailleurs sociaux, Caroline Morisseau.
Pour les banques, le pire des scénarios est écarté. Face au fort regain d'inflation en pleine crise en Iran, le patron d'une grande banque française craignait que Bercy fasse un geste politique pour redonner du pouvoir d'achat aux Français et fixe le taux du livret A à 2% au-delà de la formule de calcul. L'inflation étant finalement en train de refluer, le gouvernement a décidé de s'en tenir à la formule. Les experts tablent donc désormais sur un taux autour d'1,8% pour le livret A et 2,8% maximum pour le livret d'épargne populaire. Pour les banques, qui assument une partie de la rémunération de ces livrets, la facture va tout de même s'alourdir d'un peu plus de 800 millions d'euros sur un an. Quant aux bailleurs sociaux, si cette hausse de 0,3 points se confirme, ce sont un peu plus de 400 millions d'euros d'intérêts supplémentaires qu'ils vont devoir payer à la Caisse des dépôts en année pleine. Les taux pourraient toutefois repartir à la baisse dès février prochain.
Dans le secteur bancaire, c'est BPCE qui a été sélectionné pour tester les fonctionnalités de l'euro numérique. Pour le compte de la Banque Centrale Européenne, c'est la seule française qui va participer à cette expérimentation dès la mi-2027 avec 35 autres établissements financiers de la zone euro.
Un euro numérique qui devrait pouvoir sortir, si tout va bien, en 2029. La France et l'Italie font front commun pour défendre leur industrie de la mode.
Les ministres de l'industrie de ces deux pays se réunissent tout à l'heure à Rome avec les professionnels du secteur pour lancer en fait un pacte inédit contre la fast fashion et pour le savoir-faire européen, Valentine Adby.
Une sainte alliance avec la France. C'est ainsi que Lucas Burlatti, président de la Confindustria Moda, qui représente l'ensemble de la filière textile italienne, résume l'enjeu de ce rapprochement. Les deux pays dominent la mode européenne. Les grandes maisons françaises s'appuient depuis longtemps sur les ateliers italiens, des tissus à la maroquinerie. Les deux pays forment déjà une même chaîne de valeur. Mais toute la filière est aujourd'hui sous pression. Ralentissement du luxe, concurrence des plateformes d'ultra fast fashion et difficultés croissantes des PME qui fabriquent cuir et tissus, d'où l'urgence de ce pacte franco-italien. Objectif, mieux protéger les savoir-faire, soutenir la production locale, renforcer la lutte contre la contrefaçon et défendre ensemble les intérêts de la filière auprès de Bruxelles afin de préserver sa souveraineté industrielle. La mode sert aujourd'hui de laboratoire. Si cette alliance fonctionne, Paris et Rome espèrent l'étendre à d'autres secteurs industriels stratégiques comme l'automobile, l'acier ou les semi-conducteurs.
Dans l'automobile, justement, ça fait ce matin un an tout pile que Luca De Meo a quitté Renault et 12 mois plus tard, son successeur François Provost a clairement fait le ménage chez le constructeur et il a même soldé définitivement l'ère De Meo, Justine Vassogne.
Quand Luca De Meo est parti, on a cru que Renault était mort, raconte un cadre du groupe. Mais un an plus tard, tout roule, personne n'est irremplaçable. Si François Provost était le choix apparent de la continuité, il s'est très vite démarqué dans les faits. Ampère, la filiale 100% électrique, le bébé de Luca De Meo, aux oubliettes. Les petites voitures sans permis, fini. La participation au championnat d'endurance, terminée. Je préfère un véhicule de plus, j'assume, explique François Provost dans une interview. La continuité, ce n'est pas possible, estime son entourage. Le secteur automobile évolue trop vite. Il faut se transformer en permanence. Mais quelle est alors la patte de François Provost qui surfe aujourd'hui sur le succès de la R5, pensée par son prédécesseur? On ne peut pas encore dire quel véhicule incarnera l'ère Provost, nous dit-on. Mais il a déjà redéfini l'ADN de Renault, un groupe qui va plus vite avec des voitures développées en 2 ans. Pour cela, le constructeur a dû faire un big bang de son ingénierie en réduisant les effectifs de 15 à 20% dans le monde.
Et puis, cette sortie événement ce matin, Léo.
Celle de l'Odyssée, le dernier film en date de Christopher Nolan, adaptation de la mythique épopée grecque d'Homère. Et alors, ça a été fait avec les moyens qui s'imposaient. 250 millions d'euros de budget, notamment pour tourner intégralement en format IMAX. C'est là une première dans l'histoire du cinéma, Nathan Cocampo.
« 600 kilomètres de pellicule, il en fallait pas moins pour adapter l'Odyssée d'Homère, une œuvre fondatrice créée il y a près de 3000 ans, un niveau record dans l'industrie du cinéma expliqué par un format révolutionnaire. Christopher Nolan, à qui l'on doit les Batman ou Oppenheimer, est le premier réalisateur à avoir tourné un film intégralement avec des caméras IMAX argentiques. Un format qui permet une bien meilleure résolution avec une surface d'image trois fois supérieure à la normale. Un défi technologique, le tournage de 91 jours a nécessité le développement de nouvelles caméras avec un système pour réduire le bruit du fonctionnement. Initialement, le tournage en IMAX permettait difficilement d'enregistrer des dialogues en direct. Une révolution qui risque de rester assez niche pour le moment. Outre la complexité du tournage, une seule salle en France, à Montpellier, dispose d'un équipement pour le diffuser dans cette version 70 mm IMAX. Prix de la place, 30 euros, près de deux fois le tarif classique.
Il est 7h10, les marchés tout de suite. Et Nicolas Pagnès, l'inflation rassure les marchés.
Oui, c'était l'un des grands rendez-vous d'hier, la publication de l'indice de l'inflation aux États-Unis, l'indice CPI pour les prix à la consommation. Celui-ci montre que l'inflation ralentit à 3,5% sur un an au mois de juin contre les 4,2% du mois précédent, grâce notamment au recul du prix de l'essence. Une publication qui a rassuré les marchés qui veulent croire que la Fed ne relèvera pas ses taux lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, alors que Kevin Warsh s'est engagé hier devant le Congrès à bientôt faire appartenir la récente flambée de l'inflation au passé. Suite à cette publication, les taux à moyen terme se sont légèrement détendus. On voit que le 10 ans américain, qui était à 4,63 en début de journée hier, est passé à 4,60. Le 30 ans américain est, lui, resté sur les mêmes niveaux. Il est aux alentours de 5,11, ce qui montre quand même que sur l'incertitude, l'incertitude à long terme reste présente aux États-Unis. On voit que l'OAT 10 ans, qui était monté jusqu'à 3,92% hier en début de séance, est redescendu à 3,88. Donc on parle bien d'une légère détente, mais tout de même. Du côté du pétrole, le baril de Brent est ce matin toujours aux alentours des 85$. Le WTI est lui toujours aux alentours des 80$, alors que Donald Trump a finalement fait machine arrière sur cette annonce de taxe de 20% demandée pour acheminer les cargos dans le détroit d'Ormuz. Les marchés américains qui ont clôturé dans le vert hier et les marchés asiatiques qui évoluent également globalement dans le vert. On voit que le Shanghai Composite est, lui évolue très légèrement dans le rouge, moins 0,08%. Mais pour le reste des indices asiatiques, c'est plutôt orienté dans le vert à l'heure actuelle, avec toujours de la volatilité sur le Kospi en lien avec la progression de SK Hynix qui gagne 12% à l'heure actuelle.
Et hier s'ouvrait officiellement la saison des résultats avec notamment les résultats des valeurs bancaires, Nicolas.
Oui, pas moins de 5 grandes banques américaines publiaient leurs résultats hier. Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America et Citigroup. Celles-ci ont dévoilé des performances financières en forte hausse au deuxième trimestre, portées notamment par leurs activités de trading dans des marchés volatiles. On a notamment vu Goldman Sachs s'envoler de plus de 9% en bourse hier, portée par une branche marché dont le chiffre d'affaires a bondi de plus de 50%, tandis que son bénéfice net s'envole lui de 80% sur un an. Des performances tirées par les variations de cours de pétrole, mais aussi par les commissions liées à l'IPO de SpaceX. Même tendance chez JP Morgan ou encore chez Bank of America qui réalise des trimestres records. Au total, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup et Bank of America ont annoncé hier des revenus liés au trading actions qui avoisinent les 20 milliards de dollars en hausse de plus de 70% sur un an. À noter que ces résultats en hausse n'ont pas convaincu les investisseurs pour toutes les banques puisque Citigroup et Wells Fargo ont vu leur cours de bourse clôturer dans le rouge.
Merci beaucoup Nicolas Pagnier. C'est l'heure du débat tout de suite.
Good morning business, face à le Chypre.
Et vous auriez tort de croire qu'on ne parle pas de football dans cette matinale de l'économie. Je suis désolée de vous dire, si vous n'avez pas suivi ce match, que nous avons perdu face à l'Espagne hier soir en demi-finale du mondial de foot. Est-ce que ça a un impact, ces matchs-là et ces compétitions-là, sur notre économie? Vous nous dites oui, Raphaël Legendre.
Oui, alors la question peut paraître un peu saugrenue de prime abord, mais bien évidemment ça a un impact sur l'économie. D'abord, le foot et le sport de manière générale, c'est de la politique et c'est ce qui régente un peu l'ensemble du pays en ce moment. Alors, grosse déception hier avec cette perte en demi-finale, mais j'ai retrouvé une étude d'ABN AMRO qui a observé que depuis, ils ont fait une moyenne depuis les années 70, je trouve ça absolument incroyable, sur l'ensemble des coupes du monde depuis 60 ans, quoi, plus, quasiment 60 ans, un peu plus de 50 ans. Les pays vainqueurs en finale ont bénéficié d'un bonus de croissance de 0,7 points de PIB l'année suivante, quand ceux qui perdaient avaient une croissance diminuée de 0,3 points de PIB. Alors on n'est même pas arrivé jusqu'à la finale, donc autant vous dire que ça va pas être glorieux pour l'année prochaine. Mais plus sérieusement, évidemment, ça va pas avoir un impact économique majeur sur le PIB. C'est pas ça qui va nous faire monter ou descendre d'un point. Mais à un niveau plus sectoriel, on aurait une finale des Bleus. Je peux vous dire que l'ensemble des bars, des bistrots de ce pays aurait été archi plein au moment de la finale. C'était le cas jusqu'à hier. On aurait pu avoir une magnifique finale qui aurait rempli les bars, les restaurants et toutes les fan zones. Au UK, il y a eu des chiffres dans les pubs quand l'équipe d'Angleterre jouait. C'était jusqu'à plus de 144% de recettes de ventes dans les pubs. Pour les médias, c'est évidemment des recettes publicitaires en moins et puis assez majeures, parce qu'une finale, c'est des recettes de pub multipliées quasiment par deux pour les chaînes TV. Et puis vous avez tout cet effet d'entraînement, en réalité le feel good facteur. On montre bien qu'un succès de l'équipe nationale, eh ben ça peut entraîner de la consommation,
oui, c'est ça,
des dépenses, c'est plus sympa. En plus là, on est battu par les Espagnols qui sont déjà les champions de la croissance en Europe, 3% de croissance quand nous on est derrière avec moins de 1%. Je sais pas si c'est la croissance qui fait la Coupe du Monde ou la Coupe du Monde qui fait la croissance, mais en tout cas on s'est fait deux fois avoir par nos amis espagnols là.
Emmanuel Le Chypre.
Non mais c'est un peu du fantasme tout ça.
On consomme pas plus.
Mais non, la réalité. Alors effectivement, on peut dire qu'il y a eu un petit effet, mais il y a eu quelques effectivement secteurs gagnants. Oui, c'est sûr que déjà le secteur des paris sportifs par exemple a été gagnant, le secteur de la pub a été gagnant, les ventes de téléviseurs ont été gagnantes, on a vendu des maillots, certes c'est formidable, et puis les repas à domicile, les bars, etc. Mais la réalité, c'est que il y a quand même un principe qui demeure en économie et qui est tout à fait immuable, qui est quasiment une loi de la gravité, c'est que vous ne pouvez pas dépenser de toute façon plus que ce que vous gagnez, et vous ne pouvez pas dépenser.
Mais c'est ce qu'on fait depuis plus de 50 ans en France.
Vous ne pouvez pas faire ça.
Vous vivez à crédit.
Quand on est de bonne humeur, on vit à crédit.
En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on dépense pas plus. C'est qu'on arbitre des dépenses aux dépens de certaines autres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Raphaël nous dit on fréquente les bars. Bah oui, mais on va pas dans les restos. Je veux dire, quand vous êtes chez vous à regarder la télé avec une pizza, c'est très bien pour Pizza Hut ou Domino's, mais ça fait pas l'affaire des cinémas ni des restos. Si vous achetez une nouvelle télé pour la Coupe du Monde, bah tant pis, vous changerez le canapé plus tard. Voyez, donc ça n'a aucune espèce d'importance. Et puis alors, on va quand même revenir sur ce fantasme de l'effet Coupe du Monde 98. Parce que si vous regardez les effets sur la croissance de la Coupe du Monde 98, vous voyez que elle est plus faible, la croissance, pendant l'été qu'au printemps, et qu'ensuite elle est encore plus faible à l'automne que pendant l'été.
Et Dieu merci, on a fait du hier.
Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en plus, en 98, et c'est ça qui fait aussi qu'il y a un effet dopant pour la Coupe du Monde, c'est quand vous en êtes l'organisateur. Donc, en 98, on avait quand même rénové des stades, on avait des dizaines de milliers de touristes étrangers qui étaient venus. Donc, ça, on l'avait pas cette fois-ci. Donc, franchement, effet à peu près nul. On n'avait même pas, contrairement à ce que dit Raphaël avec sa fréquentation mirobolante des bars,
mais oui,
on n'avait pas l'effet oisiveté qu'on a dans ces cas-là. L'effet oisiveté, c'est quand les matchs se jouent sur les horaires de bureau et que du coup, vous n'allez pas bosser, c'est mauvais pour la productivité. Mais là, ouais, vous avez vu les horaires des matchs. Donc en fait, sur l'économie, franchement, ça ne change strictement rien. Il y a un perdant quand même, qui est le secteur du foot lui-même, puisqu'il faut rappeler que si on avait gagné la Coupe du Monde, eh bien la Fédération Française de Foot aurait touché de la FIFA à peu près 44 millions d'euros. Là, ce sera seulement 24. Et puis c'est vrai qu'il y aura aussi sans doute un moindre engouement pour la fréquentation des stades. Ça, il faut rappeler qu'en 98, la fréquentation des stades après la Coupe du Monde avait augmenté de 60%. Et on avait vu ça en Allemagne aussi en 2006, après la Coupe du Monde organisée en Allemagne. Là, on n'aura pas ça. Donc le secteur du foot lui-même est perdant, mais l'économie française se moque bien de cette défaite.
Raphaël, vous êtes douché comme les Français hier soir.
Ouais, j'ai couché.
Allez, tout de suite, le monde qui bouge.
Good morning business. Le monde qui bouge.
Avec Annalisa Capellini, qui va me donner ses feuilles tout de suite. Nous allons parler. Nous allons parler de la Bulgarie. Les Européens travaillent pour imposer un nouveau train de sanctions à la Russie, mais il y a un pays donc qui fait de la résistance. Annalisa, c'est la Bulgarie.
Oui, pourquoi ? Parce que dans ce nouveau paquet de sanctions contre Moscou, qui vise des dizaines de personnes physiques, des dizaines d'entités, des banques, d'entreprises, il y a aussi deux personnalités notables. C'est le patriarche Kirill, qui est le chef de l'église orthodoxe russe. C'est lui qui a qualifié l'invasion de l'Ukraine de guerre sainte. Et il y a l'homme fort de Lukoil, qui est Vagit Alekpeyov. Évidemment, ces deux noms sont inacceptables pour Sofia. Pourquoi ? Pour le premier, il y a des raisons très symboliques et très évidentes, c'est que les Bulgares pays orthodoxes ne peuvent pas accepter que le chef de l'église orthodoxe russe soit sanctionné. Et pour Lukoil, bah là, les inquiétudes sont purement économiques parce que c'était cette entreprise russe qui exploitait la seule raffinerie du pays à Burgas, sur la mer Noire, jusqu'à la fin de l'année dernière, quand l'administration américaine a imposé des sanctions tellement lourdes, tellement bloquantes, que la Bulgarie a décidé de récupérer en fait les activités de la raffinerie. Ce pourquoi Lukoil menace de demander à la Bulgarie 3 milliards d'euros d'indemnisation. Donc, on comprend mieux quand le Premier ministre bulgare parle de se tirer une balle dans le pied si jamais ces sanctions étaient approuvées. Et on comprend pourquoi il refuse d'autoriser des sanctions qui pourraient nuire, je le cite, à la Bulgarie et à son économie. Bon, résultat, selon Euronews, ces deux noms auraient été retirés de la liste des sanctions et la Bulgarie serait désormais en train de se battre sur un troisième ressortissant russe. Selon le Premier ministre bulgare, encore une fois, les Européens ont déjà accepté de le retirer. On n'a pas la confirmation de l'identité de cette troisième personne retirée, supposément, de la liste des personnes sanctionnées, mais on sait que ça serait un homme d'affaires lié au bon fonctionnement du métro de la capitale bulgare, donc essentiel, là encore, à l'économie bulgare.
La Bulgarie qui fait traîner les choses, et ça peut avoir des conséquences, Annalisa.
Oui, des conséquences très concrètes, parce que ce paquet de sanctions qui a été proposé il y a plus d'un mois, le 9 juin, par la Commission, est vraiment déterminant. Pour la première fois, on cible la pêche russe. Pour la première fois, on cible le secteur crypto pour empêcher les Russes de contourner les sanctions. On cible les services financiers. Bref, à Bruxelles, on explique que c'est vraiment déterminant pour étouffer l'économie russe qui souffre déjà beaucoup. Et surtout, ce qui compte, c'est qu'il y a la révision du plafond du prix du pétrole russe fixé par l'Union européenne. Ce plafond, il doit être ajusté tous les 6 mois pour rester en fait en dessous du prix de marché du pétrole russe pour que Moscou s'enrichisse le moins possible avec son pétrole. Eh bien, si en Europe on n'arrive pas à s'entendre aujourd'hui, ce prix passerait de 44 euros à 58 euros le baril. C'est très très proche du cours actuel, donc ça rendrait en fait la mesure complètement inutile. C'est pour ça qu'aujourd'hui en Europe, on cède aux demandes des Bulgares. C'est parce qu'il faut absolument approuver ces nouvelles sanctions aujourd'hui.
De façon générale et très vite, la Bulgarie qui fait obstruction à toute mesure finalement contre Moscou.
Oui, disons que c'est le seul gouvernement qui soit aussi frileux sur l'Ukraine et c'est aussi le seul gouvernement qui prend des positions de plus en plus proches de celles du Kremlin. Il y a seulement quelques jours, Roman Radev, le Premier ministre bulgare, a refusé l'invitation d'Emmanuel Macron à participer à la réunion de la coalition des volontaires pour l'Ukraine. Quelques jours auparavant, il avait annoncé que la Bulgarie ne fournirait plus d'armes d'État à Kiev. Bref, il y a un glissement petit à petit vers des positions plus proche de celle de la Russie. C'est un sentiment pro-russe qui trouve un écho au sein de la population bulgare. 45% des Bulgares s'opposent aux sanctions contre la Russie. C'est le double de la moyenne de l'UE. Ces chiffres nous viennent de l'Eurobaromètre. Donc le rôle de Bruxelles, désormais, c'est de savoir à quel compromis on peut arriver, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour arriver à faire approuver ce paquet de sanctions aussi important.
Merci Annalisa Capellini. Dans un instant, le journal de 7h30, on va revenir sur les tensions qui ne retombent pas au Moyen-Orient. Le pétrole non plus, 85 dollars ce matin. On va faire un point de situation dans un instant. À tout de suite.
Good morning business, le journal.
Il y a un peu plus de 7h30, hein. 7h32, les titres, Léo.
Il n'y aura finalement pas de taxes américaines dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump explique pourquoi, on l'entendra dès le début de ce journal. Sébastien Lecornu arrive au Maroc pour parler investissement et puis les députés publient leur rapport sur les hauts patrimoines. La tension ne retombe donc pas au Moyen-Orient, le pétrole non plus. $85 ce matin, le baril de Brent, alors que les frappes se poursuivent entre les États-Unis et l'Iran. Et ça va continuer comme ça, prévient Donald Trump, qui a bien remis en place son blocus à Hormuz cette nuit, mais qui toutefois est déjà revenu en arrière sur son projet de taxe sur les transits dans le Détroit. Il nous dit pourquoi.
Donc je l'ai annoncé hier, je pensais que c'était bien. J'ai reçu des appels de différentes personnes, de différents pays, des rois, des émirs. Ils ont dit, nous aimerions le faire autrement. Nous aimerions investir aux États-Unis des milliards et des milliards de dollars et continuer d'établir des records. Il n'y a jamais eu une période comme celle-ci pour les États-Unis, avec les usines, avec les sites de production, avec tout le reste. Et nous aimerions investir énormément aux États-Unis plutôt que de payer un droit de passage. Et j'aime bien cette idée, en fait, parce que je ne pense pas que qui que ce soit devrait pouvoir faire payer un droit de passage pour le détroit d'Hormuz, ou pour n'importe quel autre détroit. Je ne pense pas que qui que ce soit devrait vraiment être dans cette position.
Voilà, Donald Trump sur sa taxe abandonnée à Hormuz, le détroit qui restera fermé jusqu'à la fin des actes d'agression, dit-on ce matin du côté des Iraniens. Le flou est donc persistant dans le secteur, ce qui pousse les Émirats arabes unis à renforcer leurs solutions de contournement et notamment la sortie de Fujairah dans le golfe d'Oman, où là les Émirats veulent construire un nouveau port, Margot Foderet.
Oui, c'est un projet à plusieurs millions de dollars qui est porté par DP World, c'est le géant émirati du secteur portuaire, et donc concrètement il s'agit à la fois d'agrandir la plateforme qui existe déjà à Fujairah, au sud du Détroit, donc, en ajoutant notamment un nouveau terminal de conteneurs, mais aussi de développer un tout nouveau port sur la côte de l'émirat de Fujairah. Alors, si le chantier est validé, il faudra encore attendre au moins 18 mois pour que les infrastructures sortent de terre. Mais en tout cas, tout ça illustre bien comment les Émirats souhaitent développer leur activité sur la côte est des Émirats arabes unis. Et cette stratégie de diversification a fait ses preuves, puisqu'au mois de juin, les Émirats ont réussi à exporter 3,8 millions de barils par jour selon Kepler. C'est 20% de plus qu'avant le conflit.
Et pour tirer profit de ces nouvelles routes, Margot, les Émirats ont aussi mis en place d'autres stratégies.
C'est vrai, d'abord, les Émirats ont fortement augmenté leur production de pétrole ces dernières semaines. Elle a bondi de 80% au mois de juin. Alors, cette hausse a été rendue possible par la sortie de l'OPEP qui a permis aux Émirats de s'affranchir des quotas de production. Et puis ensuite, sur le plan commercial, ADNOC, c'est la principale compagnie pétrolière des Émirats, souhaite facturer un supplément aux acheteurs qui veulent s'approvisionner en pétrole directement à Fujairah. La prime sera de 0,80 $ par baril pour le pétrole qui est issu des gisements de Perzakoum et de Das. Et la prime montera même à 1 $ pour du pétrole issu d'un autre gisement.
Merci Margot Foderet. À noter que du côté du Qatar, il y a le Premier ministre français qui est arrivé sur place hier soir, dépêché par Emmanuel Macron pour présenter les condoléances de la France après la mort de l'ancien émir Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani ce week-end.
Sébastien Lecornu qui est attendu ensuite à Rabat au Maroc aujourd'hui, Léo.
Pour parler avec son homologue économie, investissement et infrastructure. Et alors sur ce terrain, le symbole du réchauffement entre la France et le Maroc, c'est bien le ferroviaire, notamment à l'approche de la Coupe du Monde 2030. Co-organisé là-bas, Jean-Baptiste Huette.
En avril dernier, Mohamed VI a lui-même lancé les travaux d'extension de la ligne à grande vitesse jusqu'à Marrakech, un chantier de 430 km de ligne nouvelle pour relier à terme Tanger à Marrakech à 320 km/h, plus de 5 milliards d'euros. Sur ce projet, les groupes français ont déjà engrangé plus d'un milliard d'euros de commandes. Alstom fournira 18 TGV à Velia Horizon pour 781 millions d'euros. Colas a décroché près de 430 millions pour les voies, les caténaires et les sous-stations. Mais le Maroc ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Des trains conventionnels ont aussi été commandé à l'espagnol CAF et au sud-coréen Hyundai Rotem, deux contrats assortis d'engagements d'intégration industrielle locale avec l'objectif de faire émerger une filière ferroviaire marocaine capable à terme d'exporter vers l'Afrique. Alors oui, la France garde le marché le plus prestigieux, celui de la grande vitesse, mais elle a dû le disputer sur le reste. C'est bien tout l'enjeu de la visite de Sébastien Lecornu, entretenir ce partenariat d'exception, car s'il ouvre à Paris des portes économiques depuis la reconnaissance française du plan d'autonomie sur le Sahara, il ne les verrouille pas pour autant.
On vient en France après le Sénat. Les députés publient à leur tour leur rapport sur l'imposition des gros patrimoines.
Suite à la commission d'enquête qui avait été créée après les déclarations explosives de l'ex-ministre Éric Lombard, 13 000 contribuables parmi les plus aisés échappaient à l'impôt, avait-il assuré. Après 6 mois d'enquête, donc, les députés s'apprêtent à rendre leurs conclusions a priori partielles. Caroline Morisseau.
Comme les sénateurs, les députés vont insister sur le manque de données, un problème que l'ex-ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a d'ailleurs pointé du doigt lors de son audition.
La Direction générale des finances publiques, la DGFiP, la Direction générale du Trésor, l'INSEE, l'Institut des politiques publiques vous ont tous dit, je crois, devant cette commission, qu'ils travaillent tous, et avec beaucoup d'énergie et beaucoup de sens, je crois, et de rigueur, mais néanmoins, ils travaillent tous avec des données partielles, et donc une forme d'approximation.
Autre constat, comme le souligne l'un des membres de la commission, il faut en finir avec l'idée qu'il y a plus de fraude chez les plus aisés. Ils disposent d'outils d'optimisation parfaitement légaux et comme le souligne l'ex-ministre de l'économie Éric Lombard, aujourd'hui il n'hésite plus à les utiliser.
Je pense qu'il y a sans doute de nombreuses années, je dirais entre guillemets, ça ne se faisait pas, où les ménages fortunés n'avaient pas ce réflexe ou ne pensaient pas qu'on pouvait faire cela. Alors qu'il y a une adhésion à l'impôt qui est moindre aujourd'hui et qui fait que beaucoup de personnes se disent bah, « voilà, j'ai la possibilité de réduire mon impôt, faisons-le ».
Pas de big bang fiscal irréaliste à attendre du rapport, préviennent les députés, mais une vingtaine de mesures concrètes afin d'alimenter le futur débat budgétaire. Selon nos informations, l'idée proposée par Philippe Aguillon, flécher une partie des gros héritages vers des fonds d'investissement, ne devrait pas figurer dans les recommandations.
7h38, les marchés. Et IBM qui chute lourdement en bourse, Nicolas.
Oui, tous les grands acteurs de la tech ne sont pas forcément les grands gagnants de la course à l'intelligence artificielle. Hier, IBM en a fait les frais en bourse. Le groupe a fait un avertissement sur résultats, annonçant des résultats en deçà des attentes pour le deuxième trimestre. En cause, une demande qui ralentit et se redirige essentiellement vers les infrastructures IA comme les serveurs, les solutions de stockage ou de mémoire, délaissant les produits d'IBM comme les logiciels ou les machines. Le patron d'IBM n'a d'ailleurs pas mâché ses mots, hein. Il estime que la direction a failli à sa tâche en ne s'adaptant pas à la nouvelle donne du marché. Le titre a dans la foulée perdu 25% de sa valeur, ce qui a fait perdre à la société plus de 68 milliards de dollars de valorisation en une seule séance.
Les publications et on vient d'avoir celle de ASML.
Oui, ASML annonce un bénéfice net en hausse de 5,8% pour le deuxième trimestre et relève ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2026. Le géant européen dans le domaine des semi-conducteurs affiche un chiffre d'affaires à 9,33 milliards d'euros contre 8,8 milliards attendus. Son bénéfice net ressort à 2,9 milliards d'euros au-dessus des attentes des analystes, là où il s'élevait à 2,3 milliards d'euros au premier trimestre. Une progression des résultats portée bien sûr par la forte demande des fabricants de puces dédiées à l'intelligence artificielle. Le groupe relève également ses prévisions donc de chiffre d'affaires annuel pour 2026 à une fourchette comprise entre 43 et 45 milliards d'euros au-dessus du consensus, avec une marge brute annuelle désormais attendue entre 54 et 56%. On suivra bien sûr l'évolution du cours d'ASML à l'ouverture des marchés européens.
Et on aura richement tout à l'heure, on verra ça avec vous Nicolas, évidemment. L'édito de Raphaël Legendre.
Good morning business, l'édito de Legendre.
Raphaël, l'Europe devrait perdre près de 50 millions d'habitants d'ici 2100. C'est un rapport de la Commission européenne publié hier qui le dit. Une perspective qui appelle à un débat sur l'immigration choisie.
Oui, alors il nous dit une chose importante, hein, ce rapport de la Commission, c'est qu'on est au pic de notre population en Europe. 451 millions aujourd'hui. On va monter d'ici 3 ans à 453 millions. On n'aura jamais été autant d'Européens sur le vieux continent, mais après... Eh ben c'est le toboggan, effectivement, 445 millions en 2050 et moins de 400 millions à la fin du siècle. Alors évidemment, c'est pas la Chine qui, je le rappelle, va perdre la moitié de sa population d'ici 2100, mais quand même. Le sujet n'est pas que sur le nombre d'habitants en Europe, c'est aussi sur leur âge. En 2050, près du tiers des Européens auront plus de 65 ans. C'est un cinquième seulement aujourd'hui. Autrement dit, l'Europe aura davantage de retraités à financer, de patients à soigner, de personnes dépendantes à accompagner et de moins en moins d'actifs pour le faire. Donc tout l'enjeu des prochaines décennies pour nous, Européens, eh bien, c'est de trouver de la force de travail d'une manière ou d'une autre.
Mais l'Europe dispose encore de réserves de main-d'œuvre.
Oui, alors effectivement, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Près de 20% des Européens en âge de travailler sont aujourd'hui en dehors du marché du travail. Ça fait 8 millions de jeunes par exemple, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études, les fameux NEETs, vous savez. Donc, il y a de la réserve de ce côté-là, évidemment. Il faut aussi augmenter le taux d'emploi des femmes et des seniors. Il va falloir travailler globalement davantage. Il faut investir dans la formation, la robotisation également, qui va pouvoir pallier certains métiers, et la productivité. Et puis, évidemment, bon, mener une politique familiale. Mais tous ces leviers ne suffiront pas. Il faudra une immigration économique à un moment ou à un autre. Ce sera absolument indispensable. Ce débat doit être posé au niveau européen, sauf que c'est un débat explosif. Et c'est pourquoi il ne faut pas une immigration subie, désorganisée ou clandestine comme on peut la connaître aujourd'hui. Nous avons besoin d'une immigration encadrée, légal, choisi, qualifié, piloté selon nos besoins.
À quoi elle ressemblerait, cette immigration choisie, Raphaël ?
Une politique migratoire enfin assumée. D'abord, on pourrait commencer par un guichet numérique unique pour permettre aux entreprises de recruter rapidement dans les métiers en tension, avec des critères de transparence et de prévisibilité. Ensuite, un véritable système à points, comme l'a fait le Canada, avec des critères en fonction de l'âge, du diplôme, de l'expérience, de la maîtrise de la langue, de la capacité d'intégration et des besoins du marché du travail. Et puis, il faut aussi renforcer le passeport talent, mieux reconnaître les diplômes étrangers et cibler les pays disposant d'un vivier de jeunes diplômés. Et puis, enfin, il faut que l'Europe cesse cette absurdité qui est de former à grands frais des étudiants étrangers, puis de les pousser vers la sortie dès leur diplôme obtenu. Il faut faciliter leur passage des études vers l'emploi. Le Conseil d'analyse économique avait rappelé dans un rapport il y a quelques années que 70% de l'immigration venait, 70% de l'augmentation de la force de travail européenne, pardon, venait de l'immigration ces dernières décennies. Il soulignait aussi que l'immigration qualifiée favorise l'innovation, l'entrepreneuriat, les exportations et la productivité. Et donc, si on ne veut pas mourir économiquement de vieillesse sur le vieux continent qui est déjà vieux, eh ben, on n'aura pas le choix.
Merci beaucoup, Raphaël Legendre. Dans un instant, le grand entretien. Je serai avec Nicolas Pagnaise et nous recevons Stéphane Boujna, le président du directoire d'Euronext. À tout de suite.
Good Morning Business, le grand entretien.
Le grand entretien ce matin, je suis avec Nicolas Pagnaise et nous recevons Stéphane Boujna, le président du directoire de Euronext. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en cette semaine. On va parler tout de suite de l'IPO du slip français. C'était hier, jour de fête nationale, une entreprise française. Voilà, c'est symbolique justement par rapport à cette action que vous lancez sur les PME. C'était une belle journée pour.
Oui, c'était une belle journée. C'est toujours satisfaisant pour nous tous que pour, à l'occasion de la fête nationale, une entreprise qui essaye de se battre sur le terrain des marques, de la chaîne de valeur du textile et de la mode en Europe, et qui essaye de proposer quelque chose d'alternatif à la fast fashion, réussissent à rencontrer l'adhésion des investisseurs, des petits porteurs en particulier. Donc c'était une très belle opération. Ils ont fait une opération extrêmement équilibrée entre une levée du nouveau capital pour la croissance et permettre aux investisseurs de sortir un peu une partie de leur investissement. Donc c'est vraiment une très belle opération, une très belle journée pour une entreprise très très iconique, comme disent les Anglais.
On avait notamment le fondateur et la directrice exécutive du slip français sur le plateau de BFM Business il y a deux jours, qui nous disait qu'ils avaient réussi à boucler cet IPO en 3 à 4 mois. Ça fait le lien avec ce que vous lancez chez Euronext, IPO Go, si je le prononce bien, qui vise à faciliter les processus d'introduction en bourse sur Euronext Growth, notamment pour tout ce qui est PME et ETI, avec notamment cette idée de réduire les délais, mais aussi de faciliter les processus.
Absolument. L'idée est assez simple. Si on veut que les entreprises puissent lever des fonds propres pour financer du risque, pour faire de la croissance, pour se lancer dans des projets sur lesquels la génération de cash flow n'est pas nécessairement très visible immédiatement, eh bien, il faut des délais très courts, il faut une procédure très allégée et il faut des coûts très réduits. Et c'est ce que nous avons fait avec ce nouveau chemin, plus rapide, à des coûts plus faibles et avec une procédure très allégée. C'est le sens de cette IPO Go.
Et ça leur simplifiera la vie aussi pour passer ensuite sur Euronext,
absolument.
C'est ça, hein, le chemin sera plus facile derrière.
Absolument, c'est un parcours fast track pour entrer en bourse, pour lever du capital, pour accélérer la croissance. Je crois que c'est ce que tout le monde souhaite faire pour que les entreprises en Europe et en particulier en France puissent lever des fonds propres beaucoup plus rapidement.
Et pourquoi ? Parce qu'il y avait une complexité qui pouvait freiner les petites entreprises à aller chercher des capitaux sur les marchés financiers ?
Il y a toujours un équilibre. Vous savez, quand vous levez du capital entre la réglementation et les attentes des investisseurs, il y a toujours un équilibre entre je te donne du capital, donne-moi de l'information. Donc, tu me donnes beaucoup d'informations, je te donne beaucoup de capital. Tu me donnes pas beaucoup d'informations, je te donne pas beaucoup de capital. Et donc, il faut trouver la juste mesure en réduisant les demandes de formalisation de l'information pour continuer à lever du capital. C'est cet équilibre qu'on a essayé de faire en réduisant les délais, en réduisant la complexité, en réduisant les coûts, pour pouvoir lever du capital plus rapidement.
En bourse aussi, on a entendu parler, et là je vais parler du secteur de la défense, de KNDS, le fabricant franco-allemand de chars Léopard et du canon César, qui avait annoncé le 24 juin son introduction en bourse, finalement il freine des cas de fer. On sent que la défense tousse un peu en bourse. Est-ce que c'est votre avis aussi ?
Non, écoutez, KNDS est une magnifique entreprise franco-allemande, avec extrêmement bien positionnée, avec des produits aussi bien du côté français que du côté allemand, qui sont absolument leaders sur leur marché. Vous avez cité le char Léopard et le canon César, mais on pourrait citer aussi beaucoup d'autres produits extraordinaires dans les munitions et autres. Non, c'est une entreprise qui devait se coter une semaine particulière, sauf que le gouvernement allemand a annoncé qu'il mettait fin à un projet de 4 grosses frégates. Ça a eu un impact sur un des comparables de KNDS en Allemagne, immédiatement sur son cours de bourse. Et donc,
on parle de Rheinmetall.
Voilà, exactement. Et donc les investisseurs de KNDS, notamment les investisseurs familiaux du côté allemand, ont dit attention, la valorisation du comparable dans ces fonds, c'est pas la bonne semaine pour faire cette opération. Mais il était évident que ça, c'est une très belle histoire du secteur de la défense, c'est une très belle histoire franco-allemande. Il y a des projets franco-allemands qui réussissent, comme le FU Airbus et comme le sera KNDS. Et donc, cette entreprise, c'est en tout cas la volonté de ses dirigeants, va entrer en bourse dès que les conditions de marché seront stabilisées dans ce secteur. Et il n'y a pas de raison qu'elle se détériore.
Donc ça n'est qu'un report et ça n'est pas, ça n'est pas un symbole de la défense en
absolument
bourse aujourd'hui.
Pas.
C'est une histoire particulière, KNDS.
C'est une histoire absolument particulière et c'est un concours de circonstances. Le gouvernement allemand, pour des raisons qui tiennent à l'équilibre de sa coalition et à un agenda plus vaste lié à des annonces qu'il voulait faire en matière de programme de réforme la même semaine, a décidé cette semaine-là d'annoncer qu'il mettait fin à un programme de frégates lourdes. Ça a eu un impact sur le cours de Rheinmetall. Rheinmetall étant le comparable de KNDS, ça a eu un impact sur les préférences de la famille des actionnaires allemands. Et donc tout ça, ce sont des évolutions absolument normales. Ça ne change rien au caractère exceptionnel de cette entreprise, à la fois dans le secteur de la défense, dans le secteur terrestre et dans un segment franco-allemand qui fait apparaître des magnifiques succès des deux côtés du Rhin.
On est dans une période d'incertitude économique, diplomatique. Moi, j'aimerais savoir comment vous voyez cet été sur les marchés. On parlait juste avant de partir en vacances. Le mois d'août peut être un petit peu sensible sur ce sujet. Qu'est-ce que vous redoutez, Stéphane Boujna ?
Non, il y a un thème récurrent, enfin annuel, qui est l'incertitude du mois d'août. Un certain nombre de corrections importantes se produisent au mois d'août, tout simplement parce qu'il y a un peu plus de volatilité, il y a un peu moins d'opérateurs derrière les écrans. Honnêtement, je suis pas particulièrement inquiet. Le paradoxe, c'est qu'avec la multiplication du trading algorithmique, la multiplication de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle, en réalité, les émotions des humains sont un peu diluées par la lucidité froide des algorithmes. Et donc,
Ça stabilise les marchés, absolument.
Vous avez pu voir, d'ailleurs, depuis quelques mois, qu'il y a certes beaucoup de volatilité, mais quand vous regardez les indices, le CAC 40 est à 8003, 8004. Mmh. Je rappelle qu'en janvier 2020, il y a 5 ans, 6 ans, il était à 6000 points.
Ouais.
Donc, on était à 6000 points avant le Covid, avant la guerre en Ukraine, avant la crise de l'inflation, avant la crise de l'énergie, avant l'Iran. Donc, les marchés considèrent que les événements géopolitiques sont importants, mais que leur impact sur la performance des entreprises en moyenne pour celles qui sont représentées dans les indices. Hein. Mmh. C'est très important de garder à l'esprit que l'indice CAC 40 avec 1002, 1003, 1004, pas tout simplement parce que les petites entreprises qui sont très sensibles au prix d'hydrocarbures, qui sont très sensibles à la réduction de la consommation, elles ne sont pas dans le CAC 40. Donc il y a l'économie de l'Europe, l'économie de la France, ça n'est pas uniquement les grands indices. Mais s'agissant des grands indices, c'est-à-dire essentiellement les entreprises les plus globalisées, elles ont des perspectives de croissance et une perspective de performance qui est extrêmement forte. Donc je ne suis pas particulièrement inquiet pour le mois d'août.
Dernière question, Nicolas.
Moi, je voulais revenir très rapidement sur IPO Go. Dans les volontés, il y a également l'idée d'ouvrir aux investisseurs particuliers. Pourquoi ? Alors ça change un petit peu par rapport aux IPO classiques, puisque d'habitude, on va voir les family office, les institutionnels d'abord et les particuliers ensuite. Pourquoi ouvrir aux particuliers pour les PME qui voudraient aller en bourse sur Euronext Growth ?
Parce qu'il y a une très forte demande et des particuliers, aussi bien le segment traditionnel qui sont les gens plus âgés, mais de plus en plus des gens très jeunes qui ont commencé à acheter des actifs crypto et qui progressivement souhaitent diversifier leur portefeuille vers des actions. Enfin, ils se rendent compte que les crypto-actifs, c'est bien, mais enfin, le dividende, c'est mieux. Et que dès qu'ils sont en attente de rendement, ils entrent sur cette classe d'actifs, sur les actions. Il y a un intérêt particulier pour les IPO en direct. On observe que plus les investisseurs peuvent investir en direct, plus ils choisissent les PME, plus ils choisissent la tech, plus ils choisissent les IPO, et plus ils sont dans des relations intermédiaires avec les marchés, plus ça se dilue dans des indices et des ETF. Les investisseurs particuliers sont le principal gisement de croissance de la gestion active, dans un monde où il y a beaucoup plus de gestion qui devient passive sur des fonds. Donc, je crois que c'est très important, et pour les entreprises qui cherchent à lever des fonds propres, et pour les particuliers qui cherchent à diversifier leur épargne, de pouvoir faciliter cette connexion avec les introductions en bourse, et en particulier des PME, et en particulier des PME technologiques.
Merci beaucoup Stéphane Boujna, président du directoire d'Euronext, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. Dans un instant, vous restez avec moi, Nicolas. On va parler de la croissance chinoise moins importante qu'espérée. C'est le journal de 8h. Restez avec nous.
BFM Business et RMC Live présent économie. Good morning business. Sandra Gandoin.
Presque 8h, bienvenue dans la matinale de l'économie. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. La croissance chinoise s'essouffle, consommation faible, conflit au Moyen-Orient, plus 4,3% sur un an pour le deuxième trimestre, malgré des exportations solides et une accélération de la production industrielle. On va voir ça dans le détail dans un instant avec Nicolas Pagnès. On viendra aussi sur les publications du jour à ASML et Richemont. Et puis Bercy s'apprête à dévoiler le taux de rémunération du livret A qui s'appliquera à partir du 1er août. Il est revu à la hausse, normalement une première depuis début 2023. Tous les détails dans un instant avec Caroline Morisseau. Les autres titres, Léo Dumas.
3,5% d'inflation en juin aux États-Unis. Ça se calme, mais il n'y aura pas de tolérance à la Fed, dit son président, qu'on entendra dans le journal. 50% de droits de douane illégalement perçus ont été remboursés. On verra ce que font les entreprises avec cet argent. Et puis la sortie de l'Odyssée par Christopher Nolan ce matin. C'est le premier film de l'histoire intégralement tourné en IMAX.
Dans la prochaine heure, on remontera le temps avec Anthony Morel. Comment découvrir les joyaux de notre patrimoine grâce à l'IA ? C'est ce que promet Time Scott. Rendez-vous dans 10 minutes avec Culture IA. Et puis, 23 ans après la prise de conscience de 2003, les canicules font toujours autant de dégâts et les personnes âgées ne sont pas si protégées. Éric Frégona, directeur adjoint de l'Association des directeurs au service des personnes âgées, viendra nous en parler à 8h20. La matinale de l'économie, ça continue. Soyez les bienvenus.
Good morning business, le journal.
Et on commence par cette déception à Pékin, Léo.
Avec une croissance qui s'essouffle et c'est assez net. Au deuxième trimestre, le PIB chinois n'a progressé que de 4,3% sur un an, Nicolas Pagnès.
Oui, cette croissance chinoise a ralenti plus que prévu sur le dernier trimestre au point d'afficher son rythme le plus faible depuis 3 ans. Alors qu'elle était de 5% au premier trimestre de l'année, elle est descendue à 4,3% pour le deuxième trimestre, sortant même de la fourchette officielle fixée par le gouvernement chinois pour 2026, qui est entre 4,5% et 5%. La Chine, dont la croissance dépend fortement des exportations, fait face aux difficultés de passage via le détroit d'Ormuz, mais aussi à une faible consommation intérieure. Notons tout de même que l'envolée des prix des composants IA a permis aux exportations chinoises de bondir de 27% en valeur sur le deuxième trimestre. Au-delà des exportations, d'autres indicateurs économiques en provenance de Chine montrent tout de même un certain dynamisme de l'activité sur la période. La production industrielle chinoise a progressé de 5,3% sur un an en juin. Au-delà des attentes des analystes, les ventes de détail ont rebondi sur le mois après un recul en mai, laissant entendre que la demande des ménages pourrait commencer à progresser à nouveau. Les marchés chinois qui, pour l'instant, n'ont pas montré de signes de réaction particulier à ce chiffre évoluant proche de l'équilibre.
Merci Nicolas Pagnès. L'autre donnée importante tombée ces dernières heures, c'est l'inflation américaine qui s'est un peu calmée le mois dernier selon l'indice CPI. 3,5% sur un an après 4,2 au mois de mai. Sauf qu'avec le regain de tension au Moyen-Orient et donc sur les marchés pétroliers, rien n'est acquis, d'où la détermination de Kevin Warsh, le président de la Fed, hier devant la Chambre des représentants.
Now at the Fed, our number one objective is getting monetary policy right.
Aujourd'hui à la Fed, notre objectif numéro un est de bien calibrer la politique monétaire. C'est notre but clair et constant, l'étoile qui nous guide. Et si nous menons la politique adéquate, et nous le ferons, la flambée d'inflation des cinq dernières années appartiendra au passé. La Fed n'a pas de tolérance à l'égard de l'inflation durablement élevée. Nous sommes résolument déterminés à rétablir la stabilité des prix.
Et aux États-Unis, il y a le déficit aussi qui se creuse à nouveau sur fond de hausse des dépenses militaires. Et aussi avec le remboursement des droits de douane illégalement perçus qui s'accélèrent. Le gouvernement fédéral décaisse des milliards et des milliards, Astré Olivier.
80 milliards de dollars de droits de douane illégaux ont déjà été remboursés à date. C'est la moitié de ce qu'avait perçu le Trésor américain. Il y a près de 330 000 importateurs éligibles à ce remboursement, selon l'administration américaine. Ce sont les demandes dont le paiement était encore en cours au moment de la décision de la Cour suprême qui ont été remboursées en premier, tout simplement parce que les dossiers étaient encore ouverts sur les logiciels des services douaniers. Parmi les premiers à avoir été remboursés, il y a par exemple Walmart qui devrait obtenir 2,5 milliards de dollars de dédommagement. Avec cette somme, le géant de la grande distribution promet une baisse globale de ses prix. D'autres, comme les transporteurs FedEx, UPS et DHL, vont rembourser directement les consommateurs qui avaient payé la surtaxe sur les commandes. D'autres encore envisagent de provisionner la somme au cas où Donald Trump déciderait d'infliger de nouveaux droits de douane, autour de 10% après le 24 juillet. Car à l'issue d'une enquête, la Maison-Blanche a jugé une soixantaine de pays trop laxistes dans la lutte contre le travail forcé.
Et sous cette menace douanière américaine, ce sont les négociations entre le Canada et le Mercosur qui s'intensifient. Ottawa et le bloc sud-américain disent vouloir conclure un nouveau traité commercial avant la fin de cette année. Le Canada qui accélère de toutes parts avec l'objectif en fait de doubler ses accords commerciaux, c'est ce que dit sa chef de la diplomatie cette nuit.
En France, décision imminente sur le livret A, Léo.
Oui, Bercy dévoilera ce matin le taux de rémunération qui s'appliquera dès le 1er août et ce sera là la première révision à la hausse depuis 2023. Bonne nouvelle donc pour les épargnants, mais c'est un surcoût pour les bailleurs sociaux et d'abord pour les banques, Caroline Morisseau.
Pour les banques, le pire des scénarios est écarté. Face au fort regain d'inflation en pleine crise en Iran, le patron d'une grande banque française craignait que Bercy fasse un geste politique pour redonner du pouvoir d'achat aux Français et fixe le taux du livret A à 2% au-delà de la formule de calcul. L'inflation étant finalement en train de refluer, le gouvernement a décidé de s'en tenir à la formule. Les experts tablent donc désormais sur un taux autour d'1,8% pour le livret A et 2,8% maximum pour le livret d'épargne populaire. Pour les banques, qui assument une partie de la rémunération de ces livrets, la facture va tout de même s'alourdir d'un peu plus de 800 millions d'euros sur un an. Quant aux bailleurs sociaux, si cette hausse de 0,3 points se confirme, ce sont un peu plus de 400 millions d'euros d'intérêts supplémentaires qu'ils vont devoir payer à la Caisse des dépôts en année pleine. Les taux pourraient toutefois repartir à la baisse dès février prochain.
Dans le secteur bancaire, c'est BPCE qui a été sélectionné pour tester les fonctionnalités de l'euro numérique pour le compte de la Banque Centrale Européenne. C'est la seule française qui participera à l'expérimentation dès la mi-2027 avec 35 autres établissements financiers de la zone euro. Et puis, une grosse OPA aux États-Unis ce matin, la plateforme de paiement Stripe et la société d'investissement Advent mettent conjointement 53 milliards de dollars pour acquérir PayPal, selon une information de l'agence Reuters que les sociétés concernées ne commentent pas.
La France et l'Italie font front commun pour défendre leur industrie de la mode.
Avec les ministres de l'industrie de ces deux pays qui se réunissent tout à l'heure à Rome, avec les professionnels du secteur, pour en fait lancer un pacte inédit contre la fast fashion et pour le savoir-faire européen, Valentine Adbi.
Une sainte alliance avec la France. C'est ainsi que Lucas Burlatti, président de la Confindustria Moda, qui représente l'ensemble de la filière textile italienne, résume l'enjeu de ce rapprochement. Les deux pays dominent la mode européenne. Les grandes maisons françaises s'appuient depuis longtemps sur les ateliers italiens, des tissus à la maroquinerie. Les deux pays forment déjà une même chaîne de valeur. Mais toute la filière est aujourd'hui sous pression. Ralentissement du luxe, concurrence des plateformes d'ultra fast fashion et difficultés croissantes des PME qui fabriquent cuir et tissu. D'où l'urgence de ce pacte franco-italien. Objectif, mieux protéger les savoir-faire, soutenir la production locale, renforcer la lutte contre la contrefaçon et défendre ensemble les intérêts de la filière auprès de Bruxelles afin de préserver sa souveraineté industrielle. La mode sert aujourd'hui de laboratoire. Si cette alliance fonctionne, Paris et Rome espèrent l'étendre à d'autres secteurs industriels stratégiques comme l'automobile, l'acier ou les semi-conducteurs.
Et puis une sortie événement ce matin, Léo.
Celle de l'Odyssée, le dernier film en date de Christopher Nolan, adaptation de la mythique épopée grecque d'Homère. Alors ça a été fait avec les moyens qui s'imposaient, 250 millions de dollars de budget, notamment pour tourner intégralement en format IMAX, ce qui est une première dans l'histoire du cinéma, Nathan Cocampo.
600 km de pellicule, il en fallait pas moins pour adapter l'Odyssée d'Homère, une œuvre fondatrice créée il y a près de 3000 ans, un niveau record dans l'industrie du cinéma expliqué par un format révolutionnaire. Christopher Nolan, à qui l'on doit les Batman ou Oppenheimer, est le premier réalisateur à avoir tourné un film intégralement avec des caméras IMAX argentiques. Un format qui permet une bien meilleure résolution avec une surface d'image 3 fois supérieure à la normale. Un défi technologique, le tournage de 91 jours a nécessité le développement de nouvelles caméras avec un système pour réduire le bruit du fonctionnement. Initialement, le tournage en IMAX permettait difficilement d'enregistrer des dialogues en direct. Une révolution qui risque de rester assez niche pour le moment. Outre la complexité du tournage, une seule salle en France, à Montpellier, dispose d'un équipement pour le diffuser dans cette version 70 mm IMAX. Prix de la place, 30 euros, près de 2 fois le tarif classique.
Allez, 8h08, les marchés. On a parlé d'ASML tout à l'heure. Il y a Richemont qui publie ce matin, Nicolas Pagnaise.
Richemont vient de publier ses résultats, donc des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre de son exercice décalé, en progression de près de 20% à 6,33 milliards d'euros. C'est au-dessus des prévisions donc des analystes qui attendaient 5,9 milliards d'euros. Des résultats qui ont notamment été portés par la division joaillerie du groupe qui affiche une progression de l'ordre de 20%, mais aussi par la division horlogerie qui affiche une progression de l'ordre, enfin supérieure à 6%, pardon. Ces résultats ont également été portés par deux régions en particulier, la région Amérique où on est à une progression de plus 27%, mais aussi l'Asie où on est aux alentours de 20% de progression. Au-delà de Richemont, on a évidemment découvert les résultats d'ASML qui ont été publiés ce matin. Vers 7h, ASML qui annonce un bénéfice net en hausse de 5,8% pour le deuxième trimestre et qui relève ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2026. Le géant des semi-conducteurs achieve donc un chiffre d'affaires à 9,33 milliards d'euros. Son bénéfice net ressort à 2,9 milliards d'euros. C'est au-dessus des attentes des analystes. La progression des résultats est sans surprise, portée par la forte demande des fabricants de puces dédiées à l'intelligence artificielle. ASML qui anticipe un chiffre d'affaires annuel pour 2026, compris entre 43 et 45 milliards d'euros. Justement, on suivra les cours donc d'ASML et de Richemont à l'ouverture. Pour l'instant, on attend un CAC 40 à l'équilibre. On attend un DAX en léger recul. C'est en tout cas ce que laissent entendre les contrats futurs. Le tout dans un contexte où les marchés réagiront à la publication de l'inflation hier aux États-Unis, qui montre que l'inflation ralentit à 3,5% sur un an contre 4,2% le mois précédent. Qui réagiront également aux prises de parole de Kevin Warsh devant le Congrès, qui a annoncé hier vouloir faire appartenir la récente flambée de l'inflation au passé et qui réagiront bien sûr à un baril de Brent toujours aux alentours des $85, tandis que le WTI oscille aux alentours des $80.
Merci beaucoup Nicolas Pagnaise. Culturia tout de suite.
Good morning business. Culture IA.
Avec vous ce matin, Anthony Morel, on découvre les joyaux de notre patrimoine de manière beaucoup plus immersive. Grâce à la tech, vous nous présentez une sorte de machine à remonter le temps virtuelle.
Oui, c'est ça. Pas une vraie comme dans Retour vers le futur. Ça, ce serait génial. Peut-être dans quelques années, qui sait. Mais une machine à remonter le temps qui utilise la réalité virtuelle. C'est plutôt ça le principe de cette innovation mise au point par une start-up qui s'appelle Timescope, que je suis depuis quelques années, et qui propose des choses absolument géniales. Ce qu'on pourrait appeler une visite historique augmentée. Ils ont notamment lancé, il y a quelques mois, une visite qui s'appelle Les Origines de Paris. Si vous habitez en région parisienne ou que vous y passez pour les vacances, par exemple, n'hésitez pas à faire cette visite. C'est assez incroyable. Donc, c'est une promenade avec un guide. Donc, vous êtes, je sais pas, sur les quais de Seine, d'accord? Et vous avez un casque de réalité virtuelle. Pas à chaque instant, évidemment. Vous baladez normalement. Et à certains moments, on va vous dire, voilà, mettez le casque sur la tête. Et là, vous allez vous retrouver, téléporté dans le passé. C'est-à-dire que vous êtes à un endroit physiquement, mais quand vous tournez la tête à 360 degrés, vous vous retrouvez au Moyen-Âge. C'est extraordinaire. C'est vraiment génial parce que c'est une autre façon de découvrir l'histoire. Donc vous tournez la tête et vous allez avoir, je sais pas, ah bah tiens, il y a Notre-Dame qui est en construction, ah il y a des drakkars vikings, il y a les vikings qui passent, qui envahissent la Seine, ah bah là on est place de Grève, il y a la guillotine. Alors ça dépend des époques évidemment, mais c'est une autre façon de consommer l'histoire, je veux dire, par rapport à des livres ou par rapport à une notice Wikipédia ou par rapport à un guide historique. C'est vous êtes complètement immergé et vous avez un mélange finalement entre la présence physique à un endroit et puis le côté réalité virtuelle, extrêmement bien fait parce qu'évidemment tout ça a été conçu avec des historiens pour que ce soit le plus réaliste et le plus proche de la réalité historique possible.
Ça donne très envie, hein. Venez voir les images sur votre tablette, votre télé, parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Là c'est de la réalité virtuelle, mais l'intelligence artificielle peut aller plus loin, Anthony.
Oui, ça permet d'ajouter une brique supplémentaire et l'intelligence artificielle, ça va permettre, eh bien, par exemple, de discuter avec des personnages disparus. Alors ça, c'est ce que fait une autre start-up française, start-up alsacienne, qui s'appelle Jumbo Mana. Ils ont installé des bornes qu'on peut trouver par exemple au musée d'Orsay, mais il va y en avoir d'autres, qui permettent en fait de discuter avec des personnages historiques en langage naturel. Donc vous vous retrouvez face à un avatar virtuel de Napoléon ou de Van Gogh, et vous pouvez lui parler, lui poser des questions. Alors là, Van Gogh, je sais pas pourquoi tu t'es coupé l'oreille, Napoléon, ah bah si Waterloo était à refaire, qu'est-ce que vous feriez pour... gagner la bataille, je sais pas pourquoi je tutoie Van Gogh et je vous vois Napoléon.
Je
faisais la réflexion en le disant, mais bon, je respecte beaucoup Napoléon, c'est sûrement pour ça, mais aussi Van Gogh. Mais en fait, là aussi, c'est une autre manière de consommer l'histoire, c'est-à-dire que évidemment, ça ne remplace pas tous les livres qu'on peut avoir, et c'est un bon complément à mon sens, c'est-à-dire qu'on a maintenant des outils qui permettent, en les entraînant, parce que c'est des modèles d'intelligence artificielle qu'on a entraînés avec la vie de ces grands hommes, évidemment, là encore, de manière extrêmement rigoureuse, en utilisant, en faisant appel à des historiens. Mais ça permet eh bien, d'avoir une autre approche finalement de l'histoire grâce à ces bornes interactives qui font appel à l'intelligence artificielle.
Alors il y a leur constitution virtuelle et tout ce que ça apporte en termes de visite, mais il y a aussi un intérêt en termes de sauvegarde de l'histoire, Anthony.
Oui, sauvegarde du patrimoine, et on se rend compte à quel point notre patrimoine est fragile. On s'en est notamment rendu compte au moment de l'incendie Notre-Dame, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette notion de tout n'est pas éternel et que l'usure du temps, qu'un accident, un incendie, une guerre, tout ça, ça peut aussi avoir un impact, et donc il faut avoir une préservation, et cette préservation elle passe par la modélisation 3D, par ce qu'on appelle les jumeaux numériques, et on est capable aujourd'hui, il y a des startups encore une fois françaises, Iconem, qui en prenant des centaines de milliers de photos d'un monument, d'un lieu, d'une ville, eh bien va pouvoir faire une reconstitution mais au millimètre près, qui permet en fait à des gens sans avoir besoin d'aller sur place, eh bien, de se balader dans un monument ou dans une ville, je sais pas, dans Pompéi par exemple, de la Rome antique, comme si on y était, comme si on était dans Google Street View d'une certaine manière. Et là encore, ça va être un outil extrêmement précieux, également pour les historiens qui n'ont pas toujours les moyens de se déplacer à un endroit pour avoir eh bien des informations extrêmement extrêmement précises. Donc quand on cumule tout ça, eh bien voilà, on a plein d'outils au service de la sauvegarde de notre patrimoine.
Hyper intéressant. Merci Anthony Morel. Chronique à retrouver évidemment sur notre appli, sur notre site en replay. La French Tech tout de suite.
Good morning business. French Tech.
Et avec Anthony, nous recevons Philippe Chambon, PDG cofondateur de Silène Therapeutics. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes venu en février dernier.
L'an dernier.
Et ça s'appelait pas Silène Therapeutics,
non, ça s'appelait
cette entreprise.
EG87. On vient de changer de nom en fait pour avoir quelque chose qui est plus compréhensible.
Alors rappelez-nous ce que fait Silène Therapeutics. On parle ici d'un traitement contre l'incontinence urinaire persistante.
Oui, en fait, on développe toute une plateforme de nouveaux produits pour résoudre un des gros problèmes des produits qui traitent des maladies du système nerveux. qui est que ce sont des produits qui, en général, sont donnés de manière systémique, donc qui vont dans tout le corps, pour agir d'une manière très locale. Mm-hmm. Et ces produits-là, parce qu'ils vont dans tout le corps, ont des effets secondaires qui sont souvent très limitants et qui fait que ça fait des produits qui ont une efficacité thérapeutique limitée. Nous, on développe des produits qu'on peut y penser comme des apps, vraiment, qui vont simplement entrer dans des cellules spécifiques qu'on veut vraiment cibler et modifier le fonctionnement de ces cellules de manière très particulière. Et en particulier dans les incontinences vésicales, qui est notre première application, ça nous permet d'éteindre l'activité de certains types de neurones de la vessie, qui fait que ces vessies hyperactives arrêtent de se contracter de manière hyperactive. Voilà ce qu'on fait. Et on a des très beaux résultats cliniques maintenant.
Donc vous agissez sur le système nerveux en fait de la vessie, c'est ça. C'est pas sur la vessie elle-même, quoi.
Non, on agit on injecte notre produit dans la vessie, mais il va agir simplement sur des neurones très spécifiques qui sortent de cette vessie pour modifier leur fonction.
Et c'est une injection une fois à vie ou c'est quelque chose qui se fait régulièrement ?
C'est une injection. On est en début d'étude clinique. On a traité 10 malades. Pour l'instant, avec des résultats d'efficacité qui sont très beaux, en fait, on est très très content de ça pour les malades. Mais ça a été une seule injection. Donc, nos premiers malades maintenant ont été injectés il y a plus d'un an et on a maintenu une très belle efficacité. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça pourrait durer un an, deux ans, trois ans. Mais là, on est déjà en deçà d'un an post-injection.
Alors, vous aviez levé, quand vous étiez venu la dernière fois, 27 millions. Là, vous levez à nouveau 33 millions. Oui. Ça veut dire que ça a avancé. Ça va vous permettre d'avancer sur quoi, cette somme-là?
Ça nous permet, en fait, on va passer maintenant d'un stade tôt, au niveau études cliniques, à un stade beaucoup plus tardif. Donc, on va avoir des discussions avec la FDA et les autorités régulatrices européennes cet automne pour définir quel programme nous devons faire pour pouvoir mettre ce produit sur le marché dans quelques années.
Europe et États-Unis en même temps.
Europe, États-Unis, bien sûr. Et donc, tout ça, ça va se passer cet automne. Cet argent nous permet d'aller jusqu'à une bonne partie de 2027. Donc, ça couvre ça. Et une fois qu'on sait quel programme on doit faire pour pouvoir mettre ce produit sur le marché, on fera une nouvelle levée d'argent.
Alors, il y a un élément qui m'a interpellé, mais oui. Vous allez sûrement me rassurer, c'est que votre technologie, si j'ai bien compris, je parle sous votre contrôle, mais elle utilise c'est un virus de l'herpès modifié.
Oui, c'est ça. Enfin, si
c'est pas
voir,
dangereux, c'est pas.
Non, pas du tout.
Tu dis comme ça, c'est un peu effrayant, mais.
Oui, non, pas du tout. C'est en fait, d'abord, 60 à 80% de l'espèce humaine est infectée par le virus de l'herpès 1 ou de l'herpès 2,
d'accord.
Et souvent les deux. Et on vit jusqu'à notre mort avec ce virus dans nos cellules sans que rien ne se passe dans la plupart des gens. C'est simplement quand les malades sont très immunodéprimés. Oui. Qu'il peut y avoir des problèmes, mais autrement, il n'y en a pas. Sauf des petits boutons de fièvre ou des choses comme ça, c'est tout. Non, alors nous, en fait, on ne travaille pas avec des virus herpétiques tels que c'est. On travaille sur des vecteurs qui ne peuvent pas se répliquer. Donc, ça va simplement dans les premières cellules qu'ils infectent et ça s'arrête là.
Le virus sert de messager, en fait, c'est ça?
Le virus sert vraiment d'une app qui contient un système d'expression particulier qui va simplement entrer dans un neurone et dans ce neurone-là modifier la fonction juste de ce neurone. Et c'est tout.
Donc, par exemple,
c'est très précis. Ouais. Par exemple, moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'au niveau de la vessie humaine, notre cible, c'est 7000 neurones. C'est tout.
Ouais.
Donc, on est capable, en modifiant la fonction de 7000 neurones, d'avoir une efficacité dans nos premiers malades qui est de plus de 80%. Ce qui est vraiment très impressionnant.
Pour terminer, oui. Une mise sur le marché, vous l'espérez pour quand?
Ça sera autour de 2030.
2030.
Ça prend du temps, ces choses-là.
Exactement, c'est du temps long, on le sait. Mais en tout cas, vous êtes le bienvenu à chaque levée de fond sur ce plateau.
Oui.
Philippe Chambon, PDG, cofondateur de Silène Therapeutics.
Voilà.
Merci beaucoup d'être venu dans la matinale de l'économie. Dans un instant, on va parler des canicules et des besoins des personnes âgées, parce que tout n'est pas réglé, évidemment, avec Eric Frégona, qui est sur ce plateau dans une minute. À tout de suite.
Good morning business, parole de patron.
Et je suis ce matin avec Eric Frégonat, directeur adjoint de l'Association des directeurs au service des personnes âgées. Merci beaucoup d'être sur ce plateau ce matin. Vous réunissez 2000 adhérents, des directeurs de coordination, de services à domicile, d'établissements pour personnes âgées publics et privées sur le territoire. On va faire un bilan de cet été très très chaud. Vos établissements sont en première ligne. Qu'est-ce que vous constatez après ces trois épisodes de canicule ?
Vous avez raison de le dire, trois épisodes de canicule qui ont été très intenses, hein, très clairement. Il y a eu un nombre de décès très important, on verra pour les chiffres plus tard, mais particulièrement à domicile.
Oui.
Donc les services à domicile, je tiens vraiment à leur rendre un grand coup de chapeau ici, hein, ont été en première ligne. Les établissements aussi ont été confrontés à cette canicule. Et dans les établissements, on a un peu mieux vécu la canicule parce qu'il y avait les salles climatisées qui, suite à 2003, ont été imposées dans l'ensemble des établissements. Pour autant, on voit bien que le temps passé auprès des personnes âgées, aussi bien dans les établissements que dans le domicile, met en danger les personnes âgées dans ces périodes critiques.
Vous demandez des fonds, évidemment. Il y a des clims déjà qui ont été commandés pour compléter ce qu'il y a déjà dans les EHPAD, mais elles n'arrivent pas.
Les clims n'arrivent pas. Aujourd'hui, il y a 1200 climatisateurs seulement qui sont arrivés, des clims mobiles qui sont arrivés dans les établissements.
Sur 7000, c'est ça ?
Sur 7500 établissements, donc c'est bien insuffisant.
Ouais.
On voit bien que les commandes sont passées, ça pose pas trop de problèmes, sauf que les centrales d'achat nous disent que les clims n'existent pas, finalement. Alors, nous appelons l'État là, à une mesure très forte, parce qu'il risque d'avoir d'autres épisodes caniculaires durant l'été. Et du coup, est-ce qu'on pourrait affréter très clairement des avions de l'État pour aller chercher ces clims là où elles sont ? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est les CDD canicules, les saisonniers estivaux que l'on attendait. Alors, l'État nous a dit de recruter ces personnes. Est-ce qu'ils vont les financer ? Nous n'avons aucune garantie aujourd'hui que l'État va financer ces engagements. Et du coup, on vérifiera ça à la départ.
Hein. Oui, il faut plus de fonds. Il faut débloquer plus de fonds, finalement, dans cette situation. Ce que vous nous dites, et c'est aussi ce que vous représentez, c'est-à-dire qu'il y a les EHPAD d'un côté, ces salles climatisées, ces climatiseurs commandés, mais il y a aussi la situation des personnes âgées à domicile qui a fait, vous l'avez dit, beaucoup de victimes cette année, même si on n'a pas un bilan exact. Et sur lequel le gouvernement d'ailleurs veut appuyer, c'est-à-dire laisser ces personnes le plus possible à domicile. Qu'est-ce qu'on fait pour elles ?
C'est un paradoxe. L'État nous dit qu'il faut que tous les Français vivent dans leur domicile individuel, même si on a vu que pendant la canicule, il y a une recrudescence des demandes pour entrer dans les établissements, ce qui veut dire bien que les établissements ont un rôle dans ce pays. Mais le paradoxe, c'est qu'on n'aide pas les services à domicile à travailler correctement.
Oui.
Il y a des salaires tout au long de l'année qui n'ont pas de revalorisation ou trop peu de revalorisation. Et puis, on voit bien que, au-delà des revalorisations salariales, le manque de temps passé auprès de ces personnes âgées est criant. Et donc, on appelle à l'ADEPA à ce qu'il y ait véritablement... Alors, cette fameuse loi grand âge, on l'attendait, on voit bien qu'elle ne va pas arriver avant la fin du quinquennat. Mais à minima, que les candidats à l'élection présidentielle se saisissent de la question. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que là, on voit bien pendant les périodes de canicule qu'il y a la transition démographique et la transition écologique qui se percutent et que les principales victimes, ce sont les plus fragiles, ce sont les gens qui sont à la rue et ce sont les gens les plus fragiles, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.
Souvent, on se demande ce qui a résulté de bon de cette canicule de 2003 qui faisait référence finalement dans ces situations-là. Bon, on l'a dit, il y a des salles climatisées dans les établissements, au moins une salle dans chaque établissement. Mais là, les mesures que vous demandez aujourd'hui, c'est presque du court terme. C'est des fonds débloqués, c'est des climatiseurs. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place à long terme, en revanche, pour les 10-15 ans à venir ? C'est quoi les mesures ?
Deux mesures principales. Un plan d'aide à l'investissement, notamment pour les établissements publics et associatifs. On voit bien que nombre de ces établissements sont très vieillissants. Hein. Le bâti est très vieillissant. Il y a des établissements qui ont 30, 40 années, donc qui ne sont pas du tout aux normes pour pouvoir accueillir des personnes dignement en forte chaleur. Ça, c'est évident. Est-ce qu'il faudra clim partout ? Est-ce qu'il faudra pas clim partout ? C'est un autre sujet. Et ça, je pense que le terrain pourra nous le dire. Il y a plein d'autres choses qui est faisable. Je vous rappelle juste qu'aujourd'hui, il y a seulement 10% des établissements qui sont entièrement climatisés, les établissements pour personnes âgées. Donc ça, c'est le sujet de l'investissement et cette loi grand âge que l'on attend devra mettre le paquet, je dirais, sur ce sujet d'investissement immobilier. Et puis, il y a un autre sujet, c'est le sujet crucial, c'est celui du nombre de professionnels et notamment, alors tout au long de l'année, mais et notamment lors de ces épisodes de crise, parce qu'on voit bien que notre secteur, il est confronté tout le temps à des crises. Quand c'est la crise Covid, on est en première ligne. Quand il y a les épidémies saisonnières, on est en première ligne. Et quand il y a les fortes chaleurs, on est en première ligne. Donc là, il faut renforcer les effectifs.
Et les formations et les diriger dans ces secteurs. Merci Eric Frégonat d'être venu, directeur adjoint de l'ADPA, l'Association des directeurs au service des personnes âgées. Dans un instant, le journal de 8h30. On va revenir sur la situation au Moyen-Orient avec Léo Dumas et Margot Fodéré. À tout de suite.
Good Morning Business, le journal.
8h31, les titres, Léo.
Il n'y aura finalement pas de taxe américaine dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump explique pourquoi, on l'entendra dès le début de ce journal. Sébastien Lecornu, lui, arrive au Maroc pour parler investissement. Et puis, les députés publient leur rapport sur les hauts patrimoines. La tension ne retombe donc pas au Moyen-Orient, le pétrole non plus, $85 ce matin pour le baril de Brent, alors que les frappes se poursuivent entre les États-Unis et l'Iran, et ça va continuer comme ça, prévient Donald Trump, qui a bien remis en place son blocus à Hormuz cette nuit, mais qui toutefois est déjà revenu en arrière sur son projet de taxe sur les transits dans le détroit, et il nous dit pourquoi.
Donc je l'ai annoncé hier, je pensais que c'était bien. J'ai reçu des appels de différentes personnes, de différents pays, des rois, des émirs. Ils ont dit, nous aimerions le faire autrement. Nous aimerions investir aux États-Unis des milliards et des milliards de dollars et continuer d'établir des records. Il n'y a jamais eu une période comme celle-ci pour les États-Unis, avec les usines, avec les sites de production, avec tout le reste. Et nous aimerions investir énormément aux États-Unis plutôt que de payer un droit de passage. Et j'aime bien cette idée, en fait, parce que je ne pense pas que qui que ce soit devrait pouvoir faire payer un droit de passage pour le détroit d'Ormuz, ou pour n'importe quel autre détroit. Je ne pense pas que qui que ce soit devrait vraiment être dans cette position.
Voilà, Donald Trump sur sa taxe donc abandonnée à Hormuz, le détroit qui restera fermé jusqu'à la fin des actes d'agression, dit-on ce matin du côté des Iraniens. Le flou qui est persistant donc dans la région, ce qui pousse les Émirats Arabes Unis à renforcer leur solution de contournement, notamment la sortie à Fujairah dans le golfe d'Oman, où là les Émirats veulent construire un nouveau port, Margot Fodéré.
Oui, c'est un projet à plusieurs millions de dollars qui est porté par DP World, le géant portuaire émirati. Et donc concrètement, il s'agirait d'abord d'agrandir la plateforme qui existe déjà à Fujairah, donc au sud du détroit d'Ormuz, en ajoutant un nouveau terminal de conteneurs, mais aussi en parallèle de construire un nouveau port sur cette même côte de l'émirat de Fujairah. Alors, si le chantier est validé, il faudra encore attendre au moins 18 mois pour que les nouvelles infrastructures sortent de terre. Mais tout cela illustre clairement la volonté des Émirats de renforcer leur activité sur la côte est. D'ailleurs, cette stratégie de diversification a porté ses fruits, puisqu'au mois de juin, les Émirats Arabes Unis ont réussi à exporter 3,8 millions de barils par jour selon Kepler. C'est 20% de plus qu'avant la guerre.
Et pour tirer profit de ces nouvelles routes, Margot, les Émirats ont aussi mis en place d'autres stratégies.
C'est vrai. D'abord, les Émirats ont fortement augmenté leur production de pétrole ces dernières semaines, plus 80% au mois de juin. Alors cette hausse a été rendue possible par la sortie de l'OPEP qui a permis aux Émirats de s'affranchir des quotas de production. Et puis ensuite, sur le volet commercial, ADNOC, donc c'est la compagnie pétrolière émirati, compte facturer un supplément à tous les acheteurs qui veulent s'approvisionner à Fujairah, justement pour éviter les aléas dans le détroit d'Ormuz. La prime sera de 80 cents de dollars par baril pour le pétrole qui est issu des gisements de Upper Zakum et de Das. Et la prime montera même à 1 dollar par baril pour le pétrole qui vient d'un troisième gisement.
Merci Margot Fodéré. À noter que du côté du Qatar, il y a le Premier ministre français qui est arrivé sur place hier soir, dépêché par Emmanuel Macron pour présenter les condoléances de la France après la mort de l'ancien émir Cheikh Ahmad Ben Khalifa Al Thani ce week-end.
Mais Sébastien Lecornu qui est aussi attendu à Rabat aujourd'hui, Léo.
Pour parler avec son homologue marocain, économie, investissement et infrastructure. Et alors sur ce terrain, le symbole du réchauffement des relations avec le Maroc, c'est le ferroviaire, notamment à l'approche de la Coupe du Monde 2030 qu'organisait là-bas Jean-Baptiste Huette.
En avril dernier, Mohamed VI a lui-même lancé les travaux d'extension de la ligne à grande vitesse jusqu'à Marrakech, un chantier de 430 km de lignes nouvelles pour relier à terme Tanger à Marrakech à 320 km/h, plus de 5 milliards d'euros. Sur ce projet, les groupes français ont déjà engrangé plus d'un milliard d'euros de commandes. Alstom fournira 18 TGV à Velia Horizon pour 781 millions d'euros. Colas a décroché près de 430 millions pour les voies, les caténaires et les sous-stations. Mais le Maroc ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Des trains conventionnels ont aussi été commandé à l'espagnol CAF et au sud-coréen Hyundai Rotem, deux contrats assortis d'engagements d'intégration industrielle locale avec l'objectif de faire émerger une filière ferroviaire marocaine capable à terme d'exporter vers l'Afrique. Alors oui, la France garde le marché le plus prestigieux, celui de la grande vitesse, mais elle a dû le disputer sur le reste. C'est bien tout l'enjeu de la visite de Sébastien Lecornu, entretenir ce partenariat d'exception, car s'il ouvre à Paris des portes économiques depuis la reconnaissance française du plan d'autonomie sur le Sahara, il ne les verrouille pas pour autant.
Et juste au nord de Tanger, il y a une frontière qui s'est effacée, celle tenue, celle entre l'Espagne et Gibraltar, le territoire britannique, qui intègre l'espace Schengen. Après l'accord signé hier entre l'UE et le Royaume-Uni à Bruxelles, les barrières sur les personnes et sur les biens sont donc supprimées, Alexandra Paget.
Gibraltar, 40 000 habitants au sud de la péninsule ibérique. L'enclave britannique accueille chaque jour 15 000 travailleurs espagnols et dépend fortement de cette main-d'œuvre. Pour eux, fini le parcours du combattant, les contrôles systématiques, les files d'attente aux postes frontières. Cet accord va aussi faciliter la vie des entreprises et favoriser le commerce, le tourisme et les investissements des deux côtés de la frontière terrestre de l'Alinéa. Les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, s'ils arrivent à l'aéroport ou au port, devront désormais se soumettre aux règles en vigueur dans l'espace Schengen, donc à l'enregistrement biométrique, prise de photos et empreintes digitales. Avec une économie fondée sur les services financiers, le tourisme, les jeux d'argent en ligne, Gibraltar accueille 10 millions de visiteurs chaque année et affiche l'un des revenus par habitant les plus élevés au monde. Ce qui explique que Madrid n'ait jamais vraiment renoncé à sa souveraineté cédée à la couronne britannique en 1713, objet depuis de tensions diplomatiques récurrentes entre Londres, Madrid et Bruxelles.
On revient en France. Après le Sénat, les députés publient à leur tour leur rapport sur l'imposition des gros patrimoines, Léo.
Suite à la commission d'enquête qui avait été créée après les déclarations explosives d'Éric Lombard, l'ancien ministre de l'économie, 13 000 contribuables parmi les plus aisés échappent à l'impôt sur le revenu, avait-il assuré. Alors après 6 mois d'enquête, les députés vont rendre leurs conclusions. Elles seront a priori partielles, Caroline Morisseau.
Comme les sénateurs, les députés vont insister sur le manque de données, un problème que l'ex-ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a d'ailleurs pointé du doigt lors de son audition.
La Direction générale des finances publiques, la DGFiP, la Direction générale du Trésor, l'INSEE, l'Institut des politiques publiques vous ont tous dit, je crois, devant cette commission, qu'ils travaillent tous, et avec beaucoup d'énergie et beaucoup de sens, je crois, et de rigueur, mais néanmoins, ils travaillent tous avec des données partielles, et donc une forme d'approximation.
Autre constat, comme le souligne l'un des membres de la commission, il faut en finir avec l'idée qu'il y a plus de fraude chez les plus aisés. Ils disposent d'outils d'optimisation parfaitement légaux et comme le souligne l'ex-ministre de l'économie Éric Lombard, aujourd'hui il n'hésite plus à les utiliser.
Je pense qu'il y a sans doute de nombreuses années, je dirais entre guillemets, ça ne se faisait pas, où les ménages fortunés n'avaient pas ce réflexe, ou ne pensaient pas qu'on pouvait faire cela, alors qu'il y a une adhésion à l'impôt qui est moindre aujourd'hui, et qui fait que beaucoup de personnes se disent, voilà, j'ai la possibilité de réduire mon impôt, faisons-le.
Pas de big bang fiscal irréaliste à attendre du rapport, préviennent les députés, mais une vingtaine de mesures concrètes afin d'alimenter le futur débat budgétaire. Selon nos informations, l'idée proposée par Philippe Aguillon, flécher une partie des gros héritages vers des fonds d'investissement, ne devrait pas figurer dans les recommandations.
8h39, les marchés.
Votre rendez-vous avec N2F, la solution qui simplifie vraiment la gestion de vos notes de frais. Plus d'infos sur n2f.com.
Quelle tendance, Nicolas ? 20 minutes de l'ouverture.
On attend des marchés européens, alors orientés dans le rouge, mais un très 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 léger recul pour le CAC 40, puisqu'on est proche de l'équilibre selon les contrats futurs, alors que le DAX, lui, devrait marquer un recul un peu plus conséquent, toujours dans un contexte de marchés asiatiques qui sont en ordre dispersé. À l'heure actuelle, le Nikkei, lui, est plutôt orienté dans le vert, plus 1,49%. Le Shanghai Composite, lui, recule, moins 0,44%. Le Hang Seng, lui, progresse plus 1,41%. Les marchés actions qui ont clôturé dans le vert aux États-Unis hier, alors que l'indice d'inflation CPI pour les prix à la consommation a été publié. Il montre que l'inflation ralentit à 3,5% sur un an, au mois de juin contre 4,2% le mois précédent, grâce au recul notamment du prix de l'essence. C'est une publication qui a rassuré les marchés qui veulent croire que la Fed ne relèvera pas ses taux lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, alors que Kevin Warsh s'exprimait hier devant le Congrès et qui s'est engagé à bientôt faire appartenir la flambée de l'inflation au passé. À noter quand même que l'OAT 10 ans est toujours aux alentours des 3,90%. Elle est remontée sur ses niveaux, elle était même jusqu'à 3,92% hier, alors que le baril de Brent est lui toujours aux alentours des 85$ depuis hier. Le WTI est lui toujours aux alentours des 80$, un petit peu moins à l'heure actuelle, 79$. Donald Trump qui avait annoncé hier mettre en place une taxe sur les navires qui passaient par le détroit d'Ormuz, une taxe de 20% pour accompagner et acheminer les navires. Il est revenu sur cette décision aujourd'hui, mais les prix du pétrole sont restés au même niveau. Parmi les actions et les valeurs que l'on pourra suivre aujourd'hui, on regardera bien sûr aux États-Unis l'évolution des banques, alors que 5 grandes banques ont publié leurs résultats hier: Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America et Citigroup. Toutes portées par une activité de trading qui a très bien marché grâce à la volatilité sur les marchés, mais aussi grâce à l'IPO de SpaceX qui a permis de générer de nombreuses commissions pour les banques qui ont accompagné l'IPO. Et puis en Europe, on suivra l'évolution de ASML et Richemont. ASML qui a annoncé un bénéfice et un chiffre d'affaires au-delà des attentes. Pareil pour Richemont pour le premier trimestre de son exercice décalé.
Merci Nicolas. On se retrouve de toute façon dans un instant pour le club de la bourse. Mais avant cela, c'est le monde qui bouge.
Good morning business. Le monde qui bouge.
Annalisa Capellini, les Européens travaillent pour imposer un nouveau train de sanctions à la Russie, mais il y a un pays qui fait de la résistance. C'est la Bulgarie.
Oui, et il y a une raison, c'est que dans ce nouveau paquet de sanctions contre la Russie, il y a des dizaines de personnes physiques qui sont visées, il y a des dizaines d'entités, des banques, des entreprises, et il y a aussi deux personnalités notables. Il y a le patriarche Kirill, c'est le chef de l'église orthodoxe russe. C'est lui, vous savez, qui avait parlé d'une guerre sainte pour qualifier l'invasion de l'Ukraine. Et il y a Vagit Alekpekov, qui est l'homme fort de Lukoil. Alors, ces deux personnes sont inacceptables pour Sofia, c'est inacceptable de les sanctionner. Pourquoi ? Bon, pour le premier, il y a évidemment des raisons symboliques, religieuses évidentes. Les Bulgares qui sont orthodoxes ne peuvent pas accepter que le chef de l'église orthodoxe russe soit sanctionné. Et pour ce qui concerne Lukoil, bah là, les inquiétudes sont purement économiques, puisque c'était cette entreprise russe qui exploitait la seule raffinerie du pays à Burgas, sur la mer Noire, jusqu'à la fin de l'année dernière, quand l'administration américaine a imposé des sanctions tellement lourdes, tellement bloquantes, que la Bulgarie a été obligée de récupérer les activités de la raffinerie. Ce pourquoi Lukoil menace aujourd'hui de demander à la Bulgarie 3 milliards d'euros d'indemnisation. On comprend donc pourquoi Roman Radev, le Premier ministre bulgare, considère que imposer des sanctions à Lukoil reviendrait à se tirer une balle dans le pied, je le cite, et donc pourquoi il refuse d'autoriser des sanctions qui pourraient nuire à la Bulgarie et à son économie. Alors, selon les informations d'Euronews, ces deux noms auraient déjà été retirés de la liste. On verra ce qu'il en est. La Bulgarie serait donc en train de se battre sur un troisième nom d'un troisième ressortissant russe. Selon le Premier ministre bulgare, les Européens seraient en train d'accepter de retirer également ce troisième nom. On ne sait pas exactement de qui il s'agit, mais selon Roman Radev, ça serait un homme d'affaires lié au bon fonctionnement du métro de la capitale bulgare.
La Bulgarie qui fait donc traîner les choses, et ça peut avoir des conséquences, Annalisa.
Oui, des conséquences très concrètes. Ce paquet de sanctions a été présenté au début du mois de juin par la Commission. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Et il est vraiment déterminant, ce paquet, parce que pour la première fois, il cible la pêche. Il cible les secteurs crypto pour empêcher la Russie de contourner les sanctions. Il cible les services financiers. Bref, à Bruxelles, on explique que c'est vraiment nécessaire pour arriver à achever finalement l'économie russe qui souffre déjà beaucoup. Il y a aussi la révision du plafond du prix du pétrole russe fixé par l'Union européenne qui doit être ajusté tous les 6 mois. Le but, c'est évidemment qu'il reste en dessous du prix de marché pour que la Russie s'enrichisse le moins possible avec son pétrole. Donc, si on n'arrive pas à s'entendre aujourd'hui en Europe, eh bien, le prix passerait de 44 euros à 58 euros le baril. C'est très proche du cours actuel et donc, ça rendrait la mesure presque inutile. C'est pour ça que les Européens accèdent aux demandes des Bulgares. C'est parce qu'il faut absolument approuver ces nouvelles sanctions aujourd'hui.
Très rapidement, les Bulgares qui, de façon générale, font obstruction contre toute mesure contre Moscou.
Oui, absolument. C'est le seul gouvernement en Europe qui soit aussi frileux sur l'Ukraine et en même temps qui prenne des positions de plus en plus proches de celles du Kremlin. Il y a quelques jours seulement, le Premier ministre bulgare avait refusé l'invitation d'Emmanuel Macron à participer à la coalition des volontaires pour l'Ukraine. Quelques jours auparavant, il avait annoncé que la Bulgarie ne fournirait plus d'armes d'État à l'Ukraine. Bref, il y a vraiment un glissement vers des positions de plus en plus proches de celles de la Russie. C'est un sentiment pro-russe qui trouve un écho au sein de la population bulgare. 45% des Bulgares s'opposent aux sanctions contre la Russie. C'est le double de la moyenne de l'Union européenne. Le rôle de Bruxelles, donc, aujourd'hui, c'est d'arriver à comprendre quel compromis on peut faire, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour arriver à faire approuver ce paquet de sanctions si important pour les Européens.
Merci beaucoup, Annalisa Capellini. Chronique à retrouver, évidemment, en replay sur notre appli et sur notre site.